Bonjour à tous, ici Mona Lisa du programme de démarrage pour entrepreneurs noirs de Futurpreneurs, financé par la RBC. Vous écoutez le balado Startup and Prosper, l'émission qui aide les entrepreneurs en démarrage dans leur quête de développement d'entreprises prospères. Nous avons voulu créer un lieu d'expression où les gens de tous horizons peuvent se sentir écoutés et compris, tout en mettant en lumière l'état actuel de l'entrepreneuriat dans les communautés noires. Pendant la prochaine heure, laissez-nous être une source d'inspiration vers la réalisation de votre plus grand potentiel. Alors bonjour à tous, re-bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Futurpreneurs, Startup et Prospères. Aujourd'hui, on va discuter un peu de ce que c'est que de vivre le rêve canadien. On parle beaucoup du rêve américain, mais aussi un rêve canadien d'une certaine manière, hein? Immigrer, s'établir, s'intégrer, s'adapter à une toute nouvelle réalité. On va vraiment essayer de faire le tour de la question, puis surtout de parler aussi de, évidemment, d'entrepreneuriat à travers tout ça. Et à quoi on fait face en tant qu'entrepreneur immigrant au Canada, comment on fait le tour de tout. Et notre invité pour cet épisode a immigré du Cameroun à 16 ans, est basé à Edmonton et a fait même partie des 30 meilleurs de moins de 30 ans de l'Alberta, notamment pour la manière dont il s'y prend pour créer des initiatives qui touchent à la fois la culture, la technologie et l'innovation sociale. Merci Yvan Toucault, fondateur de La Connexionnale et artpreneur à Groove with Yvan, de te joindre à nous.
Merci beaucoup, Mona Lisa, pour la super belle introduction. Ça fait vraiment plaisir.
Alors, Yvan, on commence toujours nos épisodes avec un elevator pitch. On reste dans la thématique entrepreneuriale. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que, bon, j'ai donné des petits éléments dans l'introduction, mais on aime bien aussi l'entendre de la bouche même de la personne. Fait qu'en 30 secondes, une minute, dis-nous, qui est Yvan Toucault?
Oui, c'est toujours difficile de faire encore mes elevator pitch parce qu'on les travaille toujours au fur et à mesure que l'on grandit comme entrepreneur. Mais Yvan Toucault, je suis un entrepreneur. Je me considère comme entrepreneur, comme développeur communautaire, mais aussi comme un artiste. Et donc, Yvan Toucault, c'est un entrepreneur communautaire qui je suis passionné par l'innovation sociale, la technologie, et comment justement l'intersection entre l'innovation sociale, la technologie et la culture peut bénéficier les communautés qui sont d'habitude desservies. Et les permettre justement de créer de meilleurs systèmes, de meilleures initiatives, mais aussi justement des projets qui vont être pérennes à long terme.
Très intéressant. Alors moi, j'ai déjà plein de questions à te poser par rapport à tout ça parce que je trouve ton parcours intéressant et d'une certaine manière intimement lié à ton histoire d'immigration aussi. Fait qu'on va vraiment rentrer tout de suite, pour cet épisode-là, on va rentrer tout de suite vraiment dans le vif du sujet parce que j'ai envie d'y aller de manière chronologique puis vraiment bien comprendre ton histoire en cours de route puis comment tu es tombé dans l'entrepreneuriat et que tu nous expliques de plus en long en large, ben qu'est-ce que c'est? Un artpreneur, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, on présuppose un peu ce que c'est, mais je suis curieuse de connaître ta définition de ça. Et voilà. Fait que, tout d'abord, on va commencer par le commencement. Tu as immigré du Cameroun à 16 ans au Canada. Explique-nous un peu comment tout ça s'est opéré et voilà, et comment ça s'est passé.
Absolument. Moi, mon histoire, mon immigration, mon historique avec l'immigration est vraiment intéressante. Vraiment, si je dois me concentrer sur comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat par rapport à ça, c'est quand j'ai immigré à Edmonton, j'étais vraiment, j'avais un gros sentiment d'isolation et puis je sentais de plus en plus éloigné de ma culture, mais aussi de mes communautés. C'était difficile justement de trouver que ce soit des Camerounais de mon âge ou bien des personnes qui me ressemblent, qui avaient les mêmes intérêts ou bien qui justement avec qui je pouvais vraiment me rallier à ou bien vraiment avoir ce système de support dont tout le monde a vraiment besoin.
Je vais t'arrêter par contre Yvan parce que je veux pas qu'on perde des morceaux là. Tu avais un bon fil, puis je sens que tu allais déjà nous parler de artpreneur et de ton entreprise, mais je veux qu'on parle un peu plus de, tu as parlé justement du sentiment d'isolement. Hein, parce qu'on s'en rend pas compte quand on Ben évidemment, quand on est à une place, on s'intègre. Bon, il y a d'autres enjeux, bien évidemment, mais on s'intègre quand même. On est au sein d'une société dans laquelle on est plus ou moins intégré déjà. Mais quand on y migre, c'est une toute autre réalité. Fait que comment tu dis que tu avais du mal à connecter ou à trouver même d'autres personnes auxquelles tu t'identifiais? Comment ça s'est passé? Parce que 16 ans, en pleine adolescence, tu arrives dans un nouveau pays, puisque tu avais déjà été avant, tu avais de la famille. Fait que comment, donne-nous plus de détails, comment ça s'est passé?
Ouais, non, c'est, ça s'est passé, c'est difficile. Moi, pour ma part, déjà, je parlais pas anglais quand j'ai déménagé ici au Canada. Ouais, je viens du Cameroun, le Cameroun est bilingue, mais le Cameroun est autant bilingue que le Canada est bilingue. Donc, la majorité, c'est les francophones, et puis l'anglais, tu prends l'anglais à l'école et on s'en fout un peu. Mais dès que tu atterris au Canada, tu te rends compte que tu aurais sûrement dû prêter un peu attention au cours. Donc, mon anglais n'était pas super fameux. Donc, déjà, juste pour communiquer avec les autres, c'était vraiment difficile. Oui, il y avait une communauté camerounaise. J'avais mon frère et ma soeur qui habitaient déjà ici, mais ce n'était pas pareil parce qu'à 16 ans encore et puis en tant qu'adolescent, c'est pas vraiment avec ton frère et ta soeur que tu hang out. Tu cherches justement des gens avec qui tu peux t'identifier. C'était niveau communication, déjà pour faire les amis, c'était difficile. Quand j'arrive, j'ai 16 ans, j'ai fini mon baccalauréat au Cameroun, qui est l'équivalent du high school diploma ici. Et donc, quand j'arrive, je dois directement aller à l'université parce que je peux plus aller au high school. J'ai 16 ans et la plupart des gens qui sont à l'université déjà, ils ont plus de 16 ans, 17 ans. Donc, je me retrouve en fait dans une école de upgrading où la plupart des personnes encore ont 18 ans, et là, je suis déjà le plus jeune. Donc, non seulement il y a la communication, non seulement il y a mon âge. Donc, je peux pas vraiment m'identifier aux gens qui sont autour de moi, qu'ils me ressemblent ou qu'ils me ressemblent pas. Pour communiquer, c'est difficile. Et donc, là, il y a plusieurs différentes, défis et difficultés, justement, devant moi. Et puis, le sentiment d'isolement, d'isolation est vraiment, ça vient assez rapidement parce que, je peine justement à faire des amis ou bien vraiment à m'identifier à d'autres personnes. En plus de ça, il y a le froid. il fait vraiment froid. J'ai pas envie de sortir. Donc, presque toute la première année que je suis au Canada, j'arrive en été, mais en fin d'été, en août. Donc, rapidement, là, l'hiver me frappe et puis, je pars à l'école, je rentre à la maison, vraiment, il y a rien au milieu. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas comment faire des sports d'hiver, je ne veux pas faire des sports d'hiver. Donc, tellement de choses qui se compilent les uns sur les autres à cause de différentes raisons, mon origine, mon timing d'arrivage, mes problèmes de langue. Donc, il y a juste tellement de choses qui, justement, qui jouent un rôle, justement, dans le sentiment d'isolation.
Oui. Ah, c'est fou. Donc, barrière de la langue, barrière culturelle, s'adapter à la température. Ouais, non, parce que les hivers... Et moi, j'ai jamais été en Alberta, mais je peux m'imaginer de quoi ont l'air les hivers. Donc, ça a dû être quelque chose. Mais donc, tu dis que tu avais ton frère et ta sœur déjà ici quand tu es arrivé. Est-ce que tu étais en mesure de verbaliser un peu ce que tu ressentais à cette époque-là? Comment est-ce que tu as navigué? Comment est-ce que tu t'en es sorti à ce moment-là?
Mon frère et ma soeur étaient arrivés 3 ans plus tôt. Et eux, bon, déjà, eux aussi, ils étaient... Quand tu arrives ici, tu te rends compte vraiment que tout le monde est busy. Tout le monde fait quelque chose. Tout le monde est juste comme en train de chercher à finir les fins du mois, etc., etc. En ce temps-là, j'étais pas vraiment équipé pour verbaliser justement ce que je ressentais à qui que ce soit, parce que c'est pas vraiment c'est des sujets sur la santé mentale, l'isolation, des choses comme ça, c'est des choses souvent assez tabou dans certaines cultures, dans certaines de nos cultures. Donc j'étais pas vraiment équipé pour verbaliser ça. Je me souviens pas avoir verbalisé ça du tout à quelqu'un, honnêtement, à cet âge-là. À ce niveau, justement, pour naviguer cela, j'ai eu la chance, certaines personnes que j'ai rencontrées dans l'école d'upgrading où je suis allé, faisaient de la danse. Ils faisaient de la danse et c'était un groupe, ils faisaient partie d'un groupe de danse et de tam-tam. Et donc, c'est comme ça que je commence à cliner avec eux, à m'allier avec eux. Et puis, je rejoins ce groupe-là, justement, parce que, bon, déjà dans ce groupe-là, j'avais pas besoin de parler pour jouer du tam-tam, j'avais pas besoin de parler pour danser. Donc, même si mes compétences en anglais n'étaient pas comme fameuses, je pouvais au moins suivre les instructions et faire ce que je devais faire. Donc, c'est comme ça que justement, à partir de ce groupe-là, j'apprends aussi mieux l'anglais, parce que vu que je suis aux alentours des personnes qui parlent anglais tout le temps, il y a cette adaptation-là qui commence à arriver. Avec la danse, je trouve, le tam-tam, je trouve une communauté. Je trouve des personnes avec qui, bon, j'ai pas besoin, on a tous un but commun. On est dans un groupe de tam-tam, de danse, et on doit faire des performances ici et là, donc on doit s'entraîner ensemble, on doit se côtoyer et tout. Et donc, c'est vraiment la danse et le tam-tam à cette époque-là, je pense qu'ils m'aident vraiment à naviguer les choses. Avant la danse, honnêtement, j'étais à la maison, je jouais les jeux vidéo tout le temps, ce qui n'était pas la meilleure chose à faire pour naviguer de telles situations. Mais justement, la danse et le tam-tam m'ont permis justement de finir l'école. Au lieu d'aller directement à la maison, j'avais une activité, j'avais quelque chose à faire. Et donc, c'est comme ça que je commence justement à m'impliquer dans ce groupe-là et à grandir, à justement commencer à danser professionnellement. Et depuis tout petit, j'aimais toujours danser, j'aimais toujours bouger. Je me rappelle au Cameroun, j'avais souvent fait des chorégraphies pendant des fun soirées ou bien des journées retour aux sources. Et donc, la danse était déjà là comme une base. Et donc, ça m'a permis vraiment de me... de créer cette bulle-là où bien je me sentais un peu moins à l'écart et puis plus partie du système que je venais, que je m'adaptais à.
Ok, non, c'est intéressant. Donc, tu as pu trouver une manière qui te permettait de t'exprimer sans nécessairement passer par la langue que tu étais encore en train d'apprendre. Puis c'est un peu une passion aussi que tu avais, que tu as développée au fil du temps, puis tu as pu créer ta communauté de cette manière-là. Je trouve ça très beau parce qu'on entend souvent ce genre de situation où quand on arrive dans un milieu, c'est un élément, une activité ou une chose qui réussit à nous accrocher et à faire en sorte qu'on peut se créer, se bâtir un réseau, se développer puis se sentir aussi à sa place. Donc, non, très intéressant. Et à partir de là, tu commences à danser professionnellement, tu es vraiment dans le milieu. Et comment après tu es tombé dans le monde de l'entrepreneuriat? Quel a été le déclic? Comment tu t'es... positionné.
Ouais, ça a pris beaucoup de tangentes et tout. Et je pense à chaque tangente, j'ai appris justement des différentes, comment dire, j'ai acquis des différentes aptitudes qui m'ont permis justement d'arriver où je suis. Et donc là, déjà avec la danse, ça m'a appris beaucoup de discipline, mais aussi beaucoup de non seulement la discipline, mais être consistent. Parce que là, avec la danse, fallait qu'on répète à chaque semaine, des fois des semaines, c'était 3-4 répétitions. Et aussi, le groupe de danse et de tam-tam dans lequel j'étais, la personne qui était justement le capitaine de ce groupe, le chargé du groupe, justement, était un entrepreneur. Il faisait de l'entrepreneuriat et puis il devait chercher des gigs ici et là. Et donc, en observant un peu ça, je me suis dit, mais bon, c'était intéressant de voir comment on se faisait payer par l'art. En faisant de l'art. Donc, ça, c'était un concept qui m'avait jamais traversé l'esprit. Je peux me faire payer parce que je dansais, parce que je le ferais gratuitement, que ce soit qu'il y ait de l'argent ou pas. De Sangea, le groupe s'appelle Sangea. Et de Sangea, je vais à l'université. À l'université, je rencontre l'un des cofondateurs de la collectionnelle, qui est aujourd'hui l'entreprise dans laquelle je suis président. Je le rencontre et c'est là que je m'introduis aux danses, aux différents types de danses latines qui existent à travers le monde, mais aussi je fais la connexion entre ces danses latines-là parce que la plupart des danses latines ont des origines africaines. Et donc, tout de suite, je suis approché aussi par les danses latines, donc j'apprends un peu de ça et tout. Et donc, ça c'est une connexion justement, ça revient après, ça arrive pas tout de suite. Et du coup, en plus, un genre qui est l'université francophone. Bon, la seule unité francophone à l'ouest du Manitoba où je vais. Je continue à faire mon programme à l'école. Je m'implique dans différentes initiatives, bénévoles, Africa Student Association. Je commence à faire de l'event planning, de l'organisation, de community organizing. Donc, je fais beaucoup de volontariat et de bénévolat. Et je commence vraiment à bâtir un réseau. Et donc, on arrive en 2017. Donc là, on est arrivé ici en 2012. Donc, en 2017, après différentes choses, danse, bénévolat, Je crée aussi mon propre groupe de danse, justement, après Sangea, où je performe d'habitude des danses de l'Afrique traditionnelle, de l'Afrique de l'Ouest. Moi et mes amis ont créé un propre groupe de danse qui est proprement un groupe de danse afro-fusion contemporain. Et donc là, justement, c'est ma première, c'est vraiment ma première, mon premier essai à l'entrepreneuriat. Donc là, on se faisait booker pour des performances, on faisait de l'argent ici et là, à travers nos talents et à travers les chorégraphies que l'on faisait. Sangea, quand Sangea est en train d'arriver, un jour, moi et mes amis, on est assis dans ma voiture, et là, on est en train de se plaindre qu'on ne peut pas aller dans un club à Edmonton, ou bien une soirée à Edmonton. On est des étudiants, on veut faire la fête, on veut s'enjailler. On se plaint qu'on peut pas aller dans un club Edmonton et justement écouter les musiques que nous on écoute tous les jours. Parce qu'Edmonton en Alberta ici, oui, il y avait des clubs africains ici et là, mais les clubs dans lesquels nous on allait, ils jouaient juste pas de notre musique. Donc c'était juste du hip-hop, vraiment la musique mainstream. Et là, on se plaint et certains d'entre nous ont des connexions avec le nom que nous travaillons dans un club. Moi, j'ai déjà fait de l'organisation. L'autre ami a comme connaît un Didier, et donc c'est comme ça que on se dit, ok, nous, on veut vraiment, vraiment pouvoir écouter de l'afrobeat et de la musique latine, caribéenne dans un club avec des gens que l'on connaît, avec les gens que l'on a rencontrés à l'université, vraiment pour créer un environnement différent, parce qu'on n'avait pas encore eu cette chance d'aller dans une soirée et se dire, ok, on a vraiment une belle soirée, c'est une soirée qui reflète, par exemple, moi, les soirées que j'ai eues au Cameroun avant même de venir au Canada. C'est comme ça que l'on crée l'événement. Et là, il y a 500 personnes qui se pointent à l'événement.
500 personnes pour votre premier événement?
Premier événement. Et c'était un jeudi soir. J'avais l'école le matin. J'avais l'école le lendemain. Mes amis avaient l'école le lendemain. C'était fou, en fait. Parce que j'avais pu imaginer, en plus, c'est 500 personnes. Et 80%, 90% de ces 500 personnes-là sont vraiment des gens des communautés africaines, caribéennes et latines. D'ascendance africaine, caribéenne et latine. Et donc là, d'habitude, quand tu vas dans ces clubs, surtout le club où on a fait l'événement, la plupart c'est des blancs. Ou bien la plupart c'est pas des gens de ces communautés-là. Et donc là, c'est vraiment là où il y a le déclic parce que on fait le premier événement et, pour moi déjà, parce que j'avais fait partie de plusieurs initiatives, vraiment jeunesse pour, essayer comme justement de faire du travail communautaire déjà. Et nos événements n'avaient jamais atteint ce genre d'amplitude.
Il y avait un besoin, là. Les gens avaient besoin d'aller danser, d'écouter la musique de leur pays ou plus lié. Ah non, vous avez... Mais ouais. Yvan, encore une fois, là, moi, j'ai beaucoup de questions. On va retourner un petit peu en arrière. Ouais. Et puis, j'ai quand même très hâte de connaître la suite parce que je trouve que tu as dit, il y a deux éléments importants que tu as mentionnés en racontant l'histoire. La première, c'est que tu ne savais pas que tu pouvais, entre guillemets, te faire payer pour danser ou du moins d'en faire une carrière ou que tu pouvais développer ça. Et tu as aussi mentionné que tu es allé à l'université. Et puis, tu as commencé un programme et c'est là que tu as rencontré des partenaires. Fait que, pour commencer, revenir sur le premier commentaire, tu ne savais pas comme tel que c'était possible et c'est là que ça a éveillé une certaine curiosité en toi. Mm-hmm. Puis, en fait, je voulais vraiment mettre soulever cet élément-là parce qu'on parle quand même de histoire d'immigration, de choc de culture différente. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que au Cameroun, à ce moment-là, avant que tu aies quitté, ce genre de carrière-là ou carrière ou type d'entreprise-là était moins mis de l'avant?
Même pas mis de l'avant du tout. Moi, j'étais pas supposé vraiment être un artiste entre guillemets d'une certaine manière. En déménageant au Canada et au Cameroun en général, vraiment les métiers qui sont vraiment privilégiés, c'est des métiers comme docteur, avocat, ingénieur. Donc on a tous un gros consentement sur les métiers du STEM, sciences, sciences et mathématiques et tout. Et donc, c'est pas vraiment des métiers valorisés ou bien c'est des métiers où ceux qui font des métiers là, ils sont un peu souvent mis à, pas forcément à l'écart de la société, mais il y a souvent des stéréotypes par rapport à eux aussi. Donc, c'est pas vraiment des métiers dans lesquels tu veux forcément te lancer dedans au Cameroun.
Ben oui, puis en fait, puis c'est ça, en fait, c'est souvent quand une famille immigre, bon, il y a une multitude de raisons pour immigrer, c'est sûr et certain, mais surtout dans nos communautés, très souvent, on fait le choix d'immigrer pour donner une meilleure vie, une meilleure situation à la famille. Et donc, c'est pas le moment de prendre des risques. Et c'est là où il faut aller, trouver une carrière qui est stable, dans laquelle on peut s'épanouir et tout ça. Donc, fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement des modèles qui sont mis de l'avant, mais je trouve ça intéressant que toi, et d'une certaine manière, tu t'es ouvert à autre chose, t'as été un peu... rebelle à défaut d'avoir un meilleur terme par rapport à ce qui est normalement, entre guillemets, hein, sortir du moule, en fait. Oui. Puis je suis curieuse de savoir, donc tu es allée à l'université, dans quel domaine d'études est-ce que toi tu te dirigeais à cette époque-là? Puis aussi, à travers toutes ces initiatives-là, et là le fameux premier événement avec 500 personnes, quelles étaient les réactions de ta famille et des gens de ton entourage au départ? Oui. Il y a eu beaucoup de questions dans mon élément.
Ouais. Faut juste essayer de répondre à toutes. Donc, ouais, je pense que pour commencer, déjà encore, bon, les choses évoluent aussi au Cameroun. Aujourd'hui, il y a plein de danseurs et plein de personnes qui font des danses et métiers. Aussi, surtout avec les médias sociaux, il y a vraiment les artistes. Tu peux les voir maintenant en ligne et puis ils peuvent inspirer d'autres personnes. Dans mon parcours, je pense que j'ai oublié les questions. Mais je pense que j'allais vers déjà mon parcours universitaire et beaucoup de gens vont pas le croire, mais j'ai fait un programme bilingue en sciences environnementales et de la conservation. Vraiment, ça a presque rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui d'une certaine manière. D'une autre manière quand même, bon, ma majeure à l'école, c'était... j'ai fait développement durable. Et donc, quand j'ai fait développement durable, je me suis beaucoup focalisé sur l'aspect social du développement durable et comment justement, c'est important justement de souvent, on va appeler ça construire des vibrant communities, des communautés vibrantes, parce que ça contribue justement au bien-être social en titre de la communauté. Donc, ça arrive à voir, mais justement, les concepts, certains des acquis, justement, des compétences que tu as acquis pendant l'université te servent à beaucoup d'autres choses. Donc, mon parcours d'université était assez séparé, justement, de ce parcours artistique-là. Et donc, quand on commence les événements, quand je commence à danser, au départ, il y a du support parce que c'est une activité hors de l'école qui permet de m'épanouir. Mais au fur et à mesure que cette activité-là commence un peu à prendre un peu plus dessus sur des activités, je dirais, scolaires, ou bien ça m'empêche de faire plus d'activités extra-parascolaires qui devraient normalement aller dans mon résumé. Ce support-là n'est pas forcément le même. Il y a non pas seulement le support, mais aussi l'inquiétude, parce que justement, l'idée de déménager au Canada, c'est d'avoir quelque chose de stable, qui peut être durable, donc être médecin, être ingénieur, faire justement sciences environnementales en Alberta, c'est parfait. Il y a tellement d'avenues au niveau de la science environnementale ici en Alberta. Donc, c'est des métiers vraiment qui sont assez sûrs, je dirais. C'est assez facile de trouver un travail, à long terme. Dans le gouvernement, tu peux engager, tu es comme presque assuré d'avoir ta pension et tout. Donc, il y a ce côté-là, inquiétude, et aussi, bon, en même temps que les gens sont inquiets, moi, je ne ressens pas ce support-là. Donc, c'est vraiment ça la balance. Donc, il y a l'inquiétude de la famille et tout. Mais moi, un certain niveau après les événements, après d'autres choses, j'ai vraiment trouvé une passion justement dans le développement communautaire. Et pas forcément dans l'organisation d'événements parce que je pense que c'est une composante de ça, mais vraiment dans le développement communautaire parce que je me suis retrouvé dans un esprit où, et peut-être là, je m'en vais trop loin déjà, mais je me suis retrouvé dans un esprit où vraiment, je me disais, j'ai eu la chance de pouvoir trouver, un groupe comme Sangria, le groupe où moi, j'ai pris la chance de performer et de m'identifier. Beaucoup d'autres Yvans qui viendront ici dans 10 ans n'auraient peut-être pas cette chance. Et donc, c'est vraiment à ce niveau-là où je me suis dit, c'est important de créer des organisations, bien des initiatives qui justement ont pour but de créer ces espaces-là, de créer ces moyens-là. Et non seulement c'est important de le faire, mais il y a, c'est clair qu'il y a un, justement, il y a un besoin. Parce que ça juste existe pas encore. On n'est pas, beaucoup de personnes, Edmonton, en Alberta, vont souvent, beaucoup de personnes de communautés diverses vont souvent déménager à Toronto, à Montréal, sous prétexte que là-bas, il y a plus de personnes, là-bas, il y a plus de choses. Mais si on déménage tous à Montréal, Toronto, et puis, il y a des gens qui vont continuer à venir maintenant. Donc, il y a un besoin, le besoin est réel. C'est un besoin que, justement, j'ai pris à cœur. Et puis, ça m'a vraiment passionné. Et non seulement ça allait aussi, ça ravivait aussi, ça nourrissait aussi certaines de mes passions. Donc, ça a fait un bon mix de choses.
Le programme de démarrage pour entrepreneurs noirs de Futurpreneurs est financé par la RBC avec un financement en prêt supplémentaire de la BDC. Rendez-vous au www.futurpreneur.ca/BESP pour plus d'informations.
Oh oui, t'as bien. Non, t'as fait le tour de toutes les questions que j'avais posées. Puis je trouve ça intéressant parce que cette notion de donner au suivant. Donc, toi, tu es passé à travers ça, arriver dans un pays, avoir ces différentes barrières-là. Tu as trouvé ton attache, tu as trouvé une manière de t'épanouir. Puis, à travers différentes initiatives, c'était important pour toi aussi de créer cet espace et créer cette communauté-là pour les autres après, les autres qui sont encore là et qui peut-être sont encore en train de rechercher leur attache à leur nouveau pays. À leur nouveau pays. Fait que je trouve ça très beau. Et maintenant, là, je serais curieuse parce qu'on est allé loin dans l'histoire, on est retourné derrière parce qu'il y avait beaucoup d'éléments à mettre de l'avant, mais là, je serais vraiment curieuse d'aller un peu plus dans les détails. La connexionnelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Et puis, parce que dans le fond, tu es arrivé au stade où, à l'université, tu as rencontré ton partenaire d'affaires.
Ouais. Donc, la connexionnelle, en gros, c'est une organisation, une entreprise sociale. Qui a pour but de mettre en valeur les talents et les contributions des personnes d'ascendance africaine, noire, caribéenne et latine à Edmonton, Alberta, au Canada. Et en faisant ça, justement, on crée des espaces physiques et virtuels pour permettre à ces communautés-là, justement, de continuer à se développer, d'apprendre ensemble et puis de créer de nouvelles ressources. Et cet impact-là, justement, éventuellement, va aussi dans les communautés adjacentes. Parce que quand tu crées des ressources pour une communauté, c'est pas juste cette communauté-là qui va en bénéficier. Le plus cette communauté grandit, le plus cette communauté, qui sont toutes de ces communautés-là, que ce soit les communautés canadiennes au sens large, vont aussi en bénéficier, justement, de ce bien-être social-là. Donc, c'est une mission, un but assez large, assez divers, assez grand. Comment est-ce que l'on fait ça? Ici, on a déjà eu à faire des événements à travers le Canada. On le fait en créant des expériences qui sont inspirées par les histoires, les musiques et les vues de ces personnes-là qui prennent inspiration dans cela. On le fait cela en créant des occasions d'apprentissage pour construire les capacités des gens. On a déjà fait des workshops. On travaille beaucoup la connaissance en anglais, donc souvent la traduction, ça me vient et puis ça part. J'essaie de
des ateliers, pas de problème.
Des ateliers d'éducation sur la finance. On a créé un festival où on supporte les artistes justement locaux, les artistes africains, caribéens et noirs. Et donc on réinvestit en permanence dans les communautés que l'on sert. Et donc c'est ça la connexion.
Ok, super. Oui, mais dans le fond, OK, donc il y a différents volets. Il y a un volet qui demeure, un volet artistique et tout, mm-hmm. Mais tu parlais d'ateliers sur les finances aussi.
Volet éducation et volet développement personnel, volet histoire même, parce que la manière dont justement on crée nos événements et certaines de nos expériences, c'est avec intention. On va créer des expériences où on va éduquer les gens sur un style de musique particulier, par exemple. Un exemple de cela, c'est dernièrement, on a fait des événements qui sont centrés sur la musique Amapiano. Donc, en créant ces événements sur Amapiano, c'est pas juste de créer les événements, mais c'est d'éduquer justement non seulement les Africains en général, les personnes de l'ascendance latine, mais aussi justement euh, le la population d'Edmonton au sens large, c'est quoi la Mapiano, parce que tu sais c'est quoi et ça peut te permettre d'avoir un différent aperçu de cette culture-là et d'en apprendre un peu plus.
Et pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est.
Un Mapiano. Donc, un Mapiano, c'est un style de musique, encore, peut-être d'habitude, c'est en anglais. C'est un style de musique qui vient de l'Afrique du Sud. Et c'est un mélange de Kwaito, House, Gokam et d'autres styles de musique de l'Afrique du Sud. Et il y a quelques chansons populaires en ce moment, comme par exemple Champion Sound de Davido. Il y a quoi donc, Mona Lisa, il y a justement une chanson qui s'appelle Mona Lisa de O'Malley, et donc ouais, c'est vraiment un son qui a pris vraiment beaucoup d'essor depuis les trois dernières années. Ouais.
Ok, ah super intéressant. Et pourquoi est-ce que c'était important pour toi de faire un lien, d'intégrer la technologie à l'innovation sociale, parce que bon, il y a l'idée derrière la connexionnale d'éduquer, de rassembler, de créer cet esprit de communauté-là qui peut être fait évidemment avec ou sans la technologie, bien sûr, mais pourquoi toi c'était au cœur de ce que tu faisais et comment tu, plus techniquement parlant, là, comment tu t'y es pris pour tout mettre ensemble?
Ouais, je me considère comme un non-tech qui aime vraiment le tech. Je sais pas comment on fait du codage, des HTML. Je sais quand même un peu faire du HTML. Je peux écrire comme quelques codes et tout. Mais, justement, la technologie, la connexion là est vraiment une petite organisation avec, on a vraiment, vraiment pas de ressources. La plupart des membres de la connexion là sont des personnes de mon âge. On a tous un 9 à 5. On a tous des responsabilités financières ici et là. Et la connexionale, la manière dont notre entreprise sociale est en ce moment, ne permet pas forcément de payer justement, de payer des gens. Et donc là, on est en train de construire vraiment notre base et nos produits MVP. Et donc, ceci étant dit, la technologie aujourd'hui, c'est vraiment de regarder ça. Il y a une grosse vague de ce qu'on appelle SaaS, Service as a Software. Il y a beaucoup de compagnies, beaucoup d'entrepreneurs, même des entrepreneurs solo, qui vont créer des outils qui vont permettre à des petites entreprises comme la mienne ou la nôtre de vraiment pouvoir se lancer sur le marché sans avoir besoin d'être des techs ou bien sans avoir besoin de coder. Et donc, il y a vraiment une grosse vague qui se passe de ça. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que nous, on peut, comme petite entreprise, avec des ressources vraiment limitées, on peut justement avoir le front d'une entreprise aussi grande que Nike, sans avoir besoin des ressources de Nike. Parce que, en ce moment, par exemple, quand tu regardes le site web de la Connexion Nike, qui n'est pas fini, c'est un site web assez super beau. Il était construit vraiment beau. Et puis, souvent, pour faire un site web pareil, il faudrait vraiment avoir des compétences vraiment, vraiment assez forte pour coder, mais avec les outils que l'on utilise, on n'a pas besoin de ça. Et donc, vraiment, comment est-ce que les entreprises, des petites entreprises comme la nôtre, surtout les entreprises de nos communautés qui n'ont pas souvent accès à ces ressources-là, peuvent justement utiliser la technologie, utiliser les outils qui sont là dehors pour vraiment avoir cette être à jour, parce que on pense souvent un exemple souvent, et c'est difficile souvent de le dire, mais souvent quand tu vois des posters, des flyers d'organisations africaines, t'es comme, mais mon Dieu, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous ne savez pas c'est quoi Canva par exemple? Canva aujourd'hui, pas besoin de connaître comment utiliser Photoshop pour avoir comme un flyer attirant, attrayant. Faut juste savoir que Canva est un outil et utiliser Canva. Et peut-être ça va prendre du temps pour utiliser Canva. Mais quand tu réussis à l'apprendre, t'as pas besoin de Photoshop. Moi, j'ai jamais utilisé Photoshop. Mais aujourd'hui, comme entrepreneur, je suis capable de produire mes propres flyers, de produire mon propre site web et de produire tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir justement être justement au devant de, justement des gens qui aimeraient justement m'engager ou m'embaucher tout en justement utilisant des outils qui ralentissent mon travail, qui enlèvent du travail administratif ici et là. Et donc, c'est vraiment pour ça que la technologie est importante à notre niveau. Comment est-ce que l'on utilise ça vraiment pour optimiser nos performances ou optimiser ce que l'on fait sans devoir avoir des ressources de Nike ou bien de grosses compagnies pareilles.
J'adore ce que tu dis. On aurait dit, c'est comme si j'avais prévu des notes et je t'avais dit, oui, Yvan, il faut que tu dises ça. J'adore parce que c'est tellement important et je trouve que trop peu d'entrepreneurs en général, puis aussi en grande, on a une bonne proportion dans nos communautés, ne font pas assez bon usage de ces outils-là qui peuvent, à moindre coût, aider à élever un peu l'entreprise, que ce soit au niveau des opérations, au niveau du look, au niveau de juste la fonctionnalité comme telle, et ces différents outils qui gagnent à être connus. Donc, pour renforcer encore tout ce que tu viens de dire, tu as parlé de Canva. Tu n'es pas obligé de nous parler comme tel du software as a service que tu utilises pour ton site web, mais il y en a peut-être d'autres. Est-ce que tu en as en tête que tu aurais envie de partager?
Absolument. Là, on était vraiment, il y a Canva, il y a Hootsuite pour ceux qui veulent se lancer dans le social media posting, mais de manière automatique, sans devoir se login tout le temps. Hootsuite, c'est vraiment compréhensible et beaucoup utilisé. Il y a Linktree. Linktree est intéressant parce que c'est gratuit. Nous, par exemple, on n'utilise pas Linktree, mais on utilise TapLink parce que TapLink est moins cher que Linktree. Et ça nous permet à nous-mêmes d'avoir notre propre domaine sur notre Linktree, au lieu d'avoir Linktree qui a son propre brand et tout. Quoi d'autre? On utilise Deskera. Deskera est un outil un peu comme QuickBooks et FreshBooks, mais c'est vraiment pour les petits business et ça met ensemble invoices, receipts, mais aussi genre email marketing, et donc il y a plein de choses à
les factures et les reçus, t'inquiète, je vais faire la traduction. Ouais.
Factures, reçus, tout ça. Quoi d'autre? Je pense que c'est vraiment les outils principaux que l'on utilise. À part ça, il y a Shopify. Shopify, justement, en ce moment, Shopify, pour ceux qui ont des commerces, pour ceux qui ont des sites web dans lesquels ils vendent des choses, Shopify est vraiment l'une des plateformes les plus robustes, vraiment là au monde en ce moment. Et puis, ils offrent, dernièrement, durant la pandémie, ils offrent un programme pour les entrepreneurs noirs. Ils donnaient à peu près 3 ou 6 mois gratuits. Je sais pas si c'est toujours en cours, mais ça vaudrait la peine de regarder cela parce que Shopify, vraiment, niveau, tu vends quelque chose, tout est intégré, encore, justement, email marketing, mailing, tout ça, c'est vraiment à l'intérieur et c'est vraiment un outil vraiment, vraiment plus.
Ouais, intéressant. J'espère que les gens qui nous écoutent ont pris des bonnes notes de ces suggestions. Puis, je trouve que ton histoire est... Évidemment, je trouve que ton histoire est très intéressante parce que tu... Puis tu me corrigeras si je me trompe, là, mais je trouve ça bien parce que tu as immigré ici, il y a eu une petite période d'adaptation, l'isolement, que tu as combattu, tu as trouvé ton attache, tu t'es épanoui, puis tu t'es un peu, en quelque sorte, approprié ton espace, approprié l'espace, et tu, en cours de route, et tu continues de le faire, à aider d'autres à s'approprier l'espace aussi, puis vraiment prendre et occuper la place qui vous revient à Edmonton et plus largement en Alberta. Puis je trouve que c'est génial et très louable à toi et tes partenaires d'affaires et tout ce que vous faites. Puis un autre point aussi que tu as mentionné, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent leur entreprise alors qu'ils ont un autre emploi ou un travail comme ta situation actuelle. Et je trouve qu'on en parle, mais on pourrait en parler encore plus. Mmh. Et puis même nous, bon, chez Futurpreneur, on a même un programme spécifique qu'on appelle le Side Hustle Program, parce que j'adore le mot en français, c'est le programme pour entrepreneurs à temps partiel qu'on a aussi. Puis je trouve ça bien parce que voilà, souvent quand on démarre, ou surtout dans le type d'entreprise comme celle que tu opères avec tes partenaires d'affaires, c'est un petit peu plus difficile au départ de pouvoir générer des salaires et générer des revenus assez importants. Ça va arriver certainement, mais pour commencer, c'est pas encore le temps et c'est tout à fait correct de commencer de cette manière-là aussi.
Ouais.
Et oui.
Ouais, non, j'allais dire absolument, ouais.
Super. Puis ce que je me demandais aussi, c'est tu sais, j'ai posé la question à savoir, bon, toute cette notion de le côté un peu plus artistique et se faire payer pour l'art, c'était un peu un nouveau concept, entre guillemets, pour toi, ton arrivée. Mais qu'en est-il de l'entrepreneuriat en général? Est-ce que c'était quelque chose qui était nouveau pour toi quand tu t'es vraiment lancée de manière précise pour la connexionnelle ou autre? Est-ce que c'était nouveau?
Oh ouais, c'était vraiment nouveau. Non seulement c'était nouveau, mais je me suis retrouvé comme CEO avec pas de skills pour être CEO du tout. Non seulement c'était nouveau, mais ouais, ça a été vraiment un parcours vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris et justement, je pense que mon parcours comme entrepreneur à temps partiel, side hustle, on va dire, m'a vraiment aidé à construire des compétences et des aptitudes qui m'aident beaucoup dans mes autres choses que je fais, parce que j'ai dû apprendre c'est quoi même human behavior, c'est quoi la psychologie. J'ai dû lire des livres que je pensais que j'aurais jamais lu, parce que des fois je me retrouvais dans des situations où je suis comme, comment est-ce que c'est supposé justement mener cette équipe, comment est-ce que c'est supposé faire cela, c'est cela. Et donc c'était pas évident du tout, et c'était vraiment mon premier essai dans quelque chose comme ça, d'assez risqué, on va dire, mais aussi où j'ai cette responsabilité là, justement, de donner des instructions, de dire ah, toi fais ça, toi fais ça. Souvent des gens qui sont plus vieux que moi, et souvent c'est encore bizarre, mais c'est vraiment, ça a été intéressant pour tout le monde.
Super. Et par curiosité, est-ce que tu es retourné ou est-ce que tu retournes souvent au Cameroun? As-tu encore de la famille là-bas?
Oui, j'ai encore la famille. Mes parents vivent au Cameroun. Et donc, je suis retourné il y a à peu près 2-3 ans. Et justement, mon retour, je pense que c'était en 2019. Encore mon retour à 2019 m'a encore plus rappelé à quel point c'est... pour moi, à quel point c'est important pour moi la connexionnelle et ce que l'on fait, parce que j'ai vécu au Cameroun jusqu'à mes 16 ans, donc j'ai vraiment une bonne idée de c'est quoi la vie au Cameroun, les différents avantages, les bénéfices à cette vie, mais aussi le manque d'opportunités des fois et les désavantages, on va dire, plus guillemets. Et donc retourner m'a vraiment encore permis de remettre en perspective c'est quoi les choses ici au Canada sur lesquels je devais vraiment pratiquer de la gratitude pour. Mais c'est aussi quoi les choses au Cameroun qui me manquent, qui ne seront jamais forcément ici au Canada. Et donc, justement, cette idée avec la connexion de pouvoir créer cet environnement, cet espace-là, à s'approprier notre espace, parce que t'arrives au Cameroun, la nourriture, les fruits, le soleil, il y a juste comme tellement de choses qui te manquent. Et là, tu reviens au Canada, tu te rends compte, OK, ces choses-là me manquent, mais il y a aussi d'autres de ces choses. Mais il y a un vide où c'est possible, justement, de combler un peu de ce vide-là que l'on ressent au Cameroun pour rendre la vie ici au Canada un peu plus facile. Et donc, j'ai vraiment aimé quand tu as mentionné approprier notre espace, parce que, justement, la semaine dernière, on a fait un voyage de ski avec la plupart, c'était des personnes de la diversité. Et donc, on a fait un voyage de ski. J'avais déjà fait du ski avec mes amis et tout. J'ai justement appris le ski l'année dernière, pendant la COVID. On a fait un voyage, j'étais à peu près 20 d'entre nous et facilement 16 d'entre nous étaient des personnes noires, des personnes d'origine africaine. Et c'était vraiment le meilleur voyage de ski que j'avais fait, parce que là, on l'a fait ensemble. C'était lit, il y avait le vibe. C'était vraiment un moment assez intéressant où on n'était pas dans un environnement qu'on est, on va dire, entre guillemets, n'est pas supposé être. Mais parce que chacun de nous a justement s'est approprié cet environnement-là. On a fait un voyage et puis, ce voyage était autant bien que un voyage que j'aurais eu au Mexique, par exemple. Parce, même si c'était des différentes conditions. Mais c'est parce que cela est arrivé en communauté et que je l'ai fait en communauté avec des amis et des gens avec qui je m'identifiais, qui a rendu l'expérience vraiment nettement plus bonne qu'elle devait être si jamais j'aurais pas fait le ski ou bien j'étais pas allé skier.
Ouais, puis tu sais, c'est souvent quand on immigre ou même quand on est juste issu de la diversité, on fait partie de la minorité dans le pays dans lequel on vit, la question identitaire est tellement importante et c'est toujours comme si on avait à faire un choix. Toujours comme si on avait à écarter une identité au profit d'une autre, comme si les deux ne pouvaient pas cohabiter et comme si on pouvait pas, voilà, tout simplement être les deux. Vous êtes un groupe, vous êtes allé faire du ski, vous embrassez complètement l'expérience canadienne, mais ça n'empêche pas que vous voulez écouter Afrobeats et l'autre style musical dont j'oublie le nom que tu m'as fait découvrir.
Piano sur la montagne.
À ma piano. Donc, je trouve ça très beau et vraiment, je pense que je l'ai répété tout au long de l'épisode, mais je trouve ça très beau et très louable ce que tu fais avec tes partenaires à travers la Connexionnelle. C'est très important pour beaucoup de gens. Puis, vous avez certainement un impact important dans nos communautés à Edmonton et en Alberta, j'imagine, de manière plus large dans les autres villes. Sur le mot de la fin, j'ai envie de te demander, j'ai peut-être deux questions, mais on va voir, ça dépend de comment tu réponds à la première. si tu pouvais t'adresser au petit Yvan de 16 ans, mm-hmm. aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ton histoire d'immigration?
Je lui dirais de trouver un mentor un peu plus tôt. Bien trouver une personne avec qui pourrait me guider un peu plus tôt pour éviter de faire toutes les erreurs que j'ai faites, que j'ai dû apprendre de mes erreurs. Ça aurait allevé beaucoup de maux de tête qui sont passés pendant ce parcours. Mais aussi, je pense que c'est juste ça parce que honnêtement, je pense que j'ai été vraiment chanceux de plusieurs manières dans mon parcours. J'ai pas beaucoup de regrets, même avec les erreurs que j'ai fait, parce que, un peu parce que j'ai fait, c'était, j'étais passionné par. Et donc, même s'il y avait des erreurs, c'était des choses qui me passionnaient. Et donc, parce qu'il y avait cette passion-là, j'ai pas vraiment eu des sentiments de regrets où je suis comme, oh, j'aurais dû pas faire ça du tout. Il y avait le côté de la passion. Et donc, je dirais, c'est vraiment comme trouver des ressources vraiment un peu plus tôt. Des ressources, des mentors un peu plus tôt et, avant même de lancer, faire un business plan, vraiment, tout ce dont on parle tous de ça tout le temps, le business plan, de c'était la vision, d'être plus stratégique, et vraiment le faire plus tôt parce que je suis une personne qui aime, je déteste la monotonie, et donc j'aime vraiment faire, avec la connexion, on a fait tellement différentes initiatives, et je pense que d'une certaine manière, ça nous a aidé à voir dans quel secteur on est le mieux, et donc, comment vraiment on peut se focaliser sur certains secteurs que d'autres. Mais en même temps, avoir justement un plan d'action qui est vraiment stratégique permettrait d'arriver à une situation qui te permettrait d'avoir, d'être plus durable tout en te permettant justement d'agrandir la compagnie d'une meilleure manière. Donc, ouais.
OK. Beaucoup de conseils importants. Mais en gros, je pense que c'est surtout de s'ouvrir et d'aller chercher de l'aide plutôt. Parce que souvent, on ne sait pas qu'on a besoin d'aide, on n'est pas conscient. Donc, s'ouvrir, en parler et éventuellement trouver un mentor plus tôt, ça serait une bonne chose de ce que je comprends, de ce que tu as dit.
Absolument, sans doute.
Ouais. OK, alors donc là, j'ai une autre question pour toi. Et là, c'est la vraie question finale. Quel conseil tu aimerais donner à une personne qui souhaite immigrer?
Je pense que immigrer au Canada, précisément, ou bien...
Oui, immigrer au Canada, on va y aller, on va rester dans la thématique.
immigrer au Canada serait, si personne parle français, immigrer dans une province anglophone. Ne pars pas dans une province anglophone, ne prends pas dans une province francophone. Si possible, mieux dans une province anglophone. Je pense que c'est le bilinguisme, une chose qui m'a vraiment, vraiment donné beaucoup d'avantages et qui va continuer à me donner beaucoup d'avantages parce que j'ai été forcé à apprendre l'anglais. Ça sera mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est le plus tôt possible, apprendre des activités diverses. Parce que, honnêtement, apprendre des activités diverses changera ta manière de percevoir l'hiver et ta manière de percevoir cette période qui est beaucoup, beaucoup la plupart du temps si tu fais rien avec vraiment dépressif ou tu vas rester à la maison, pas faire grand chose et puis ça vraiment joue sur le moral. C'est prouvé que le soleil Et d'ailleurs, ça s'est prouvé, je pense que c'est prouvé par la science. Et donc, beaucoup plus tôt, essaie d'embrasser l'identité canadienne, mais ouvre-toi à d'autres expériences que tu n'aurais pas eu à faire. Quand je parle des gens, quand je parle à beaucoup de personnes de mes communautés par rapport au ski, ils vont me dire, fait trop froid. Mais honnêtement, quand t'as tes trucs là, il fait pas froid du tout. Mais c'est vraiment cette perception, le mindset que l'on a ou bien la mentalité que l'on a qui nous empêche souvent de faire ces choses. Mais vraiment, pour résumer, serait immigrer dans une province anglophone, si possible. Ouvre-toi vraiment l'esprit au niveau de ce que tu peux faire pendant l'hiver. Apprends des activités d'hiver le plus tôt possible, que ce soit ice skating, patinage, ski, snowboard, n'importe quoi. Même si tu vas aller courir pendant l'hiver, fais-le. Et puis la dernière chose, c'est vraiment garder, continuer à garder l'esprit ouvert et de faire du réseautage le plus possible. Au Canada, je pense que la chose merveilleuse avec la connexionnelle ou bien avec la plupart des études que j'ai eu à faire par deux, ça a toujours été comme des connexions que j'ai créées qui plus tard, soit j'ai pu travailler avec ces connexions-là, soit ces connexions-là avec les contacts dont j'avais besoin et vice versa aussi. Mais réseautage, province anglophone et puis garder l'esprit ouvert sur pendant l'hiver et ses activités.
Sur ces belles paroles, Yvan, je te dis un grand merci. C'est très agréable de discuter avec toi aujourd'hui. Et pour les auditeurs, un grand merci de nous avoir écoutés. C'était encore un épisode du balado de Futurpreneur, Startup and Prosper. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter un épisode du balado Startup and Prosper avec votre hôte Mona Lisa. Abonnez-vous à notre balado disponible sur toutes les plateformes de distribution. Et pour plus d'informations sur le programme de démarrage pour entrepreneurs noirs de Futurpreneurs financé par la RBC, rendez-vous au www.futurpreneur.ca/BESP.